Marivaux, La vie de Marianne, première partie, avertissement. Comme on pourrait soupçonner cette histoire d'avoir été faite exprès pour amuser le public, je crois devoir avertir que je la tiens moi-même d'un ami qui l'a réellement trouvée, comme il le dit ci-après, et que je n'y ai point d'autre part que d'en avoir retouché quelques endroits trop confus et trop négligés. Ce qui est de vrai, c'est que si c'était une histoire simplement imaginée, il y a toute apparence qu'elle n'aurait pas la forme qu'elle a. Marianne n'y ferait ni de longues ni de fréquentes réflexions. Il y aurait plus de faits et moins de morale. En un mot, on ne se serait conformé au goût général d'à présent, qui dans un livre de ce genre n'est pas favorable aux choses un peu réfléchies et raisonnées. On ne veut dans ces aventures que des aventures mêmes, et Marianne, en écrivant les siennes, n'a point eu d'égard à cela. Elle ne s'est refusée aucune des réflexions qui lui sont venues sur les accidents de sa vie. Ses réflexions sont quelquefois courtes, quelquefois longues, suivant le goût qu'elle a pris. Elle écrivait à une amie qui apparemment aimait à penser, et d'ailleurs Marianne était retirée du monde, situation qui rend l'esprit sérieux et philosophe. Enfin, voilà son ouvrage tel qu'il est à quelques corrections de mots près. On en donne la première partie au public pour voir ce qu'on en dira. Si elle plaît, le reste paraîtra successivement. Il est tout prêt. Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l'ai trouvée. Il y a 6 mois que j'achetais une maison de campagne à quelques lieues de Rennes, qui depuis 30 ans a passé successivement entre les mains de 5 ou 6 personnes. J'ai voulu faire changer quelque chose à la disposition du premier appartement, et dans une armoire pratiquée dans l'enfoncement d'un mur, on y a trouvé un manuscrit en plusieurs cahiers contenant l'histoire qu'on va lire et le tout d'une écriture de femme. On me l'apporta, je le lus avec 2 de mes amis qui étaient chez moi et qui depuis ce jour-là n'ont cessé de me dire qu'il fallait le faire imprimer. Je le veux bien, d'autant plus que cette histoire n'intéresse personne. Nous voyons par la date que nous avons trouvée à la fin du manuscrit qu'il y a 40 ans qu'il est écrit. Nous avons changé le nom de 2 personnes dont il y est parlé et qui sont mortes. Ce qui est dit d'elle est pourtant très indifférent, mais n'importe, il vaut toujours mieux supprimer les noms. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ce petit préambule m'a paru nécessaire et je l'ai fait du mieux que j'ai pu, car je ne suis point auteur et jamais on imprimera de moi que cette 20aine de lignes-ci. Passons maintenant à l'histoire. C'est une femme qui raconte sa vie. Nous ne savons qui elle était. C'est la vie de Marianne, c'est ainsi qu'elle se nomme elle-même au commencement de son histoire. Elle prend ensuite le titre de comtesse, elle parle à une de ses amies dont le nom est en blanc, et puis c'est tout. Quand je vous ai fait le récit de quelques accidents de ma vie, je ne m'attendais pas, ma chère amie, que vous me prieriez de vous la donner tout entière et d'en faire un livre imprimé. Il est vrai que l'histoire en est particulière, mais je la gâterai si je l'écris, car où voulez-vous que je prenne un style ? Il est vrai que dans le monde, on m'a trouvé de l'esprit, mais ma chère, je crois que cet esprit-là n'est bon qu'à être dit et qu'il ne vaudra rien à être lu. Nous autres jolies femmes, car j'ai été de ce nombre, personne n'a plus d'esprit que nous. Quand nous en avons un peu, les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons en nous écoutant parler. Ils nous regardent et ce que nous disons profite de ce qu'ils voient. J'ai vu une jolie femme dont la conversation passait pour un enchantement. Personne au monde ne s'exprimait comme elle. C'était la vivacité, c'était la finesse même qui parlait. Les connaisseurs s'y pouvaient tenir de plaisir. La petite Vérole lui vint, elle en resta extrêmement marquée. Quand la pauvre femme reparut, ce n'était plus qu'une babillarde incommode. Voyez combien auparavant elle avait emporté d'esprit de son visage. Il se pourrait bien faire que le mien m'en eût pris aussi, dans le temps qu'on m'en trouvait beaucoup. Je me souviens de mes yeux de ce temps-là, et je crois qu'ils avaient plus d'esprit que moi. Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qu'aurais-tu bien de la peine à passer toute seule? Sans le jeu d'une physionomie friponne qui les accompagnait, on ne m'aurait pas applaudi comme on faisait. Et si une petite vérole était venue réduire cela et que cela allait franchement, je pense que j'y aurais perdu beaucoup. Il n'y a pas plus d'un mois, par exemple, que vous me parliez encore d'un certain jour. Il y a 12 ans que ce jour est passé. Ou dans un repas, on se récria tant sur ma vivacité. Eh bien, en conscience, je n'étais qu'une étourdie. Croiriez-vous que je l'ai été souvent exprès pour voir jusqu'où va la duperie des hommes avec nous? Tout me réussissait, et je vous assure que dans la bouche d'une laide, mes folies m'auraient paru dignes des petites maisons, et peut-être que j'avais besoin d'être aimable dans tout ce que je disais de mieux. Car à cette heure que mes agréments sont passés, je vois qu'on me trouve un esprit assez ordinaire, et cependant, je suis plus contente de moi que je ne l'ai jamais été. Mais enfin, puisque vous voulez que j'écrive mon histoire, et que c'est une chose que vous demandez à mon amitié, soyez satisfaite, j'aime encore mieux vous ennuyer que de vous refuser. Au reste, je parlais tout à l'heure de style, je ne sais pas seulement ce que c'est. Comment fait-on pour en avoir un? Celui que je vois dans les livres, est-ce le bon? Et pourquoi donc est-ce qu'il me déplaît tant le plus souvent? Celui de mes lettres vous paraît-il passable? Bien, j'écrirai ceci de même. N'oubliez pas que vous m'avez promis de ne jamais dire qui je suis. Je ne veux être connu que de vous. Il y a 15 ans que je ne savais pas encore si le sang d'où je sortais était noble ou non, si j'étais bâtarde ou légitime. Ce début paraît annoncer un roman. Ce n'en est pourtant pas un que je raconte. Je dis la vérité comme je l'ai apprise de ceux qui m'ont élevé. Un carrosse de voiture qui allait à Bordeaux fut dans la route attaqué par des voleurs. Deux hommes qui étaient dedans voulurent faire résistance et blessèrent d'abord un de ces voleurs, mais ils furent tués avec 3 autres personnes. Il en coûta aussi la vie au cocher et au postillon, et il ne restait plus dans la voiture qu'un chanoine de sens et moi, qui paraissait n'avoir tout au plus que 2 ou 3 ans. Le chanoine s'enfuit, pendant que, tombé dans la portière, je faisais des cris épouvantables, à demi étouffé sous le corps d'une femme qui avait été blessée, et qui malgré cela voulait se sauver, et était retombée dans la portière, où elle mourut sur moi et m'écrasait. Les chevaux ne faisaient aucun mouvement, mais je restais dans cet état un bon quart d'heure, toujours criant et sans pouvoir me débarrasser. Remarquez qu'entre les personnes qui avaient été tuées, il y avait 2 femmes, l'une belle et d'environ 20 ans, et l'autre environ 40. La première fort bien mise et l'autre habillée comme le serait une femme de chambre. Si l'une des deux était ma mère, il y avait plus d'apparence que j'étais la jeune et la mieux mise, parce qu'on prétend que je lui ressemblais un peu, du moins à ce que disaient ceux qui la virent morte, et qui me virent aussi, et que j'étais vêtu d'une manière trop distinguée pour n'être que la fille d'une femme de chambre. J'oubliais à vous dire qu'un laquais, qui était un des cavaliers de la voiture, s'enfuit blessé à travers les champs, et alla tomber de faiblesse à l'entrée d'un village voisin, où il mourut sans dire à qui il appartenait, et tout ce qu'on put tirer de lui, un moment avant qu'il expirât, c'est que son maître et sa maîtresse venaient d'être tués, mais cela n'apprenait rien. Pendant que je criais sous le couard de cette femme morte qui était la plus jeune, 5 ou 6 officiers qui couraient la poste passèrent, et voyant quelques personnes étendues mortes auprès du carrosse qui ne bougeait, entendant un enfant qui riait dedans, s'arrêtèrent à ce terrible spectacle où par la curiosité qu'on a souvent pour des choses qui ont une certaine horreur, ou pour voir ce que c'était que cet enfant qui criait, et pour lui donner du secours. Il regarde dans le carrosse, y voit encore un homme tué, et cette femme morte tombée dans la portière, où il jugeait bien par mes cris que j'y étais aussi. Quelqu'un d'entre eux, à ce qu'ils ont dit depuis, voulait qu'ils se retirassent, mais un autre, ému de compassion pour moi, les arrêta, et mettant le premier pied à terre, alla ouvrir la portière où j'étais, et les autres le suivirent. Nouvelle horreur qui les frappe, un côté du visage de cette dame morte était sur le mien, et elle m'avait baigné de son sang. Ils repoussèrent cette dame, et toute sanglante me retirèrent de dessous l'aile. Après cela, il s'agissait de savoir ce qu'on en ferait de moi, et où on me mettrait. Il voit de loin un petit village où il conclut qu'il faut me porter, et me donne à un domestique qui me tenait enveloppé dans un manteau. Leur dessein était de me remettre entre les mains du curé de ce village, afin qu'il me cherchât quelqu'un qui voulût bien prendre soin de moi. Mais ce curé, chez qui tous les habitants les conduisirent, était allé voir un de ses confrères. Il n'y avait chez lui que sa sœur, fille très pieuse, à qui je fis tant de pitié qu'elle voulut bien me garder en attendant l'aveu de son frère, et il eut même un procès-verbal de fait sur tout ce que je vous ai dit et qui fut écrit par une espèce de procureur fiscal du lieu. Chacun de mes conducteurs, ensuite, donna généreusement pour moi quelque argent qu'on mit dans une bourse dont on chargea la sœur du curé, après quoi tout le monde s'en alla. C'est de la sœur de ce curé que je tiens tout ce que je viens de vous raconter. Je suis sûr que vous en frémissez. On ne peut, en entrant dans la vie, éprouver d'infortune plus grande et plus bizarre. Heureusement, je n'y étais pas quand elle m'arriva, car ce n'est pas y être que de l'éprouver à l'âge de 2 ans. Je ne vous dirai point ce que devint le carrosse, ni ce qu'on fit des voyageurs tués, cela ne me regarde point. Quelques-uns des voleurs furent pris 3 ou 4 jours après, et pour comble de malheur, on ne trouva dans les habits des personnes qu'ils avaient assassinées rien qui pût apprendre à qui j'appartenais. On eut beau recourir au registre qui est toujours chargé du nom des voyageurs, cela ne servit de rien. On sut bien par là qu'ils étaient tous, à l'exception de 2 personnes, d'une dame et d'un cavalier dont le nom assez étranger n'instruisit de rien, et peut-être qu'ils n'avaient pas dit le véritable. On vit seulement qu'ils avaient pris 5 places, 3 pour eux et pour une petite fille, et 2 autres pour un laquais, une femme de chambre, qui avait été tuée aussi. Par tout cela, ma naissance devint impénétrable, et je n'appartins plus qu'à la charité de tout le monde. L'excès de mon malheur m'attira d'assez grands secours chez le curé où j'étais, et qui consentit aussi bien que sa sœur à me garder. On venait pour me voir de tous les cantons voisins. On voulait savoir quelle physionomie j'avais. Elle était devenue un objet de curiosité. On s'imaginait remarquer dans mes traits quelque chose qui sentait mon aventure ou se prenait pour moi d'un goût romanesque. J'étais joli, j'avais l'air fin. Vous ne sauriez croire combien tout cela me servait, combien cela rendait noble et délicat l'attendrissement qu'on sentait pour moi. On n'aurait pas caressé une petite princesse infortunée d'une façon plus digne. C'était presque du respect que la compassion que j'inspirais. Les dames surtout s'intéressaient pour moi au-delà de ce que je puis vous dire. C'était à qui d'entre elles me ferait le présent le plus joli, me donnerait l'habit le plus galant. Le curé, qui, quoique curé de village, avait beaucoup d'esprit, était un homme de très bonne famille, disait souvent depuis que, dans tout ce que ces dames avaient fait ainsi pour moi, il n'aurait jamais entendu prononcer le mot de charité. C'est que c'était un mot trop dur et qui blessait la mignardise des sentiments qu'elles avaient. Aussi, quand elles parlaient de moi, elles ne disaient point « cette petite fille », c'était toujours cet aimable enfant. Était-il question de mes parents, c'était des étrangers, et sans difficulté de la première condition de leur pays. Il n'était pas possible que cela fût autrement. On le savait comme si on l'avait vu. Il courait là-dessus un petit raisonnement que chacune d'elles avait grossi de sa pensée et qu'ensuite elle croyait comme si elle ne l'avait pas faite elle-même. Mais tout s'use, et les beaux sentiments comme autre chose. Quand mon aventure ne fut plus si fraîche, elle frappa moins l'imagination. L'habitude de me voir dissipa les fantaisies qui me faisaient tant de bien. Elle épuisa le plaisir qu'on avait à m'aimer. Ce n'avait été qu'un plaisir de passage, et au bout de 6 mois, cette aimable enfant ne fut plus qu'une pauvre orpheline, à qui on n'épargna pas alors le mot de charité. On disait que j'en méritais beaucoup. Tous les curés me recommandèrent chez eux, parce que chez celui chez qui j'étais n'était pas riche. Mais la religion de ces dames ne me fut pas si favorable que ne l'avait été leur folie. Je n'en tirais pas si bon parti, et j'aurais été fort à plaindre sans la tendresse que le curé et sa sœur prirent pour moi. Cette sœur m'éleva comme si j'avais été son enfant. Je vous ai déjà dit que son frère et elle étaient de très bonne famille. On disait qu'ils avaient perdu leur bien par un procès et que lui, il était venu se réfugier dans cette cure où elle l'avait suivi, car ils s'aimaient beaucoup. Ordinairement, qui dit nièce ou sœur de curé de village dit quelque chose de bien grossier et d'approchant d'une paysanne. Mais cette fille-ci n'était pas de même. C'était une personne pleine de raison et de politesse qui joignait à cela beaucoup de vertus. Je me souviens que souvent, me regardant, les larmes lui coulaient des yeux au ressouvenir de mon aventure. Et il est vrai qu'à mon tour, je l'aimais comme ma mère. Je vous avouerai aussi que j'avais des grâces et de petites façons qui n'étaient point d'un enfant ordinaire. J'avais de la douceur et de la gaieté, le geste vif, l'esprit fin, avec un visage qui promettait une belle physionomie. Et ce qu'il promettait, il l'a tenu. Je passe tout le temps de mon éducation dans mon bas âge, pendant lequel j'appris à faire je ne sais combien de petites nippes de femmes, industrie qui m'a bien servi dans la suite. J'avais 15 ans, plus ou moins, car on pouvait s'y tromper. Quand un parent du curé, qui n'avait que sa sœur et lui pour héritier, leur fit écrire de Paris qu'il était dangereusement malade, et cet homme, qui leur avait souvent donné de ses nouvelles, les priait de se hâter de venir l'un ou l'autre s'ils voulaient le voir avant qu'il mourût. Le curé aimait trop son devoir de pasteur pour quitter sa cure et fit partir sa sœur. Elle n'avait pas d'abord envie de me mener avec elle, mais 2 jours avant son départ, voyant que je m'attristais beaucoup et que je soupirais, « Marianne, me dit-elle, puisque vous cueillez tant mon absence, consolez-vous. Je veux bien que vous ne me quittiez point, et j'espère que mon frère le voudra bien aussi. Il me vient même actuellement des vues pour vous. J'ai dessein de vous faire entrer chez quelques marchandes, car il est temps d'en changer à devenir quelque chose. Nous vous aiderons toujours pendant que nous vivrons, mon frère et moi, sans compter ce que nous pourrons vous laisser après notre mort. Mais cela ne suffit pas, nous ne saurions vous laisser beaucoup. Le parent que je vais trouver, dont nous sommes héritiers, je ne le crois pas fort riche, et il vous faut choisir un état qui puisse contribuer à vous établir. Je vous dis cela parce que vous commencez à être raisonnable, ma chère Marianne, et je souhaiterais bien, avant que de mourir, avoir la consolation de vous voir mariée à quelque honnête homme, ou du moins en situation de l'être avantageusement pour vous. Il est bien juste que j'aie ce plaisir-là. » Je me jetai en ses bras après ce discours. Je pleurai et elle pleura, car c'était la meilleure personne que j'aie jamais connue, et de mon côté j'avais le cœur bon, comme je l'ai encore. Le curé entra là-dessus. « Qu'est-ce ? » dit-il à sa sœur. « Je crois que Marianne pleure. » Elle lui dit alors ce dont nous parlions et le dessein qu'elle avait de me mener à Paris avec elle. « Je veux bien, dit-il, mais si elle y reste, nous ne la reverrons donc plus. Cela me fait de la peine, car je l'aime, la pauvre enfant. Nous l'avons élevée, je suis bien vieux, et ce sera peut-être pour toujours que je lui dirai adieu. » Il n'y avait rien de si touchant que cet entretien, comme vous le voyez. Je ne répondis point au curé, mais en revanche, je me mis à sangloter de toute ma force. Cela les attendrit encore davantage, et le bonhomme alors s'approchant de moi. Marianne, me dit-il, vous partirez avec ma sœur, puisque c'est pour votre bien, et que je dois le préférer à tout. Nous vous avons tenu lieu de vos parents, que Dieu n'a pas permis que vous connussiez, non plus que personne de votre famille aussi. Ne faites jamais rien sans nous consulter pendant que nous vivrons. Et si ma sœur vous laisse bien placée à Paris, sans quoi il faut que vous reveniez, écrivez-nous dans toutes les occasions, vous aurez besoin de nos conseils. Pour nous ne vous manquerons jamais. Je ne vous rapporterai point tout ce qu'il me dit encore avant que nous partissions. J'abrège, car je m'imagine que toutes ces minutes de mon bon âge vous ennuient. Cela n'est pas fort intéressant, et il me tarde d'en venir à d'autres choses. J'en ai beaucoup à dire, et il faut que je vous aime bien pour m'être mis en train de vous faire une histoire qui sera très longue. Je vais barbouiller bien du papier, mais je ne veux pas songer à cela. Il ne faut pas seulement que ma paresse le sache. Avançons toujours. Nous partîmes donc, la sœur du curé et moi, et nous voilà à Paris. Il fallait presque le traverser tout entier pour arriver chez le parent dont j'ai parlé. Je ne saurais vous dire ce que je sentis en voyant cette grande ville et son fracas et son peuple et ses rues. C'était pour moi l'empire de la lune. Je n'étais plus à moi. Je ne me souvenais plus de rien. J'allais, j'ouvrais les yeux. J'étais étonné, voilà tout. Je me retrouvais pourtant dans la longueur du chemin. Et alors je jouis de toute ma surprise. Je sentis mes mouvements, je fus charmé de me trouver là. Je respirai un air qui réjouit mes esprits. Il y avait une douce sympathie entre mon imagination et les objets que je voyais, et je devinais qu'on pouvait tirer de cette multitude de choses différentes je ne sais combien d'agréments que je ne connaissais pas encore. Enfin, il me semblait que les plaisirs habitaient au milieu de tout cela. Voyez, si ce n'était pas là un vrai instinct de femme, et même pronostic de toutes les aventures qui devaient m'arriver. Le destin ne tarda pas à me les annoncer, car dans la vie d'une femme comme moi, il faut bien parler du destin. Le parent que nous allions trouver était mort quand nous arrivâmes. Il y avait, dit-on, 24 heures qu'il était expiré. Ce n'était pas là tout. C'est qu'on avait mis le scellé chez lui. Cet homme avait été dans les affaires et on prétendait qu'il devait plus qu'il n'avait vaillant. Je ne vous dirai pas comment on justifiait cela. C'est un détail qui me passe. Tout ce que je sais, c'est que nous ne pûmes loger chez lui, que tout était saisi, et qu'après bien des discussions qui durèrent 3 ou 4 mois, on nous fit voir qu'il n'y avait pas le sou à espérer de la succession, et que c'était dommage qu'elle ne fût pas plus grande, parce qu'elle en aurait mieux payé ses dettes. Mais n'était-ce pas là un beau voyage que nous étions venus faire? Aussi la sœur du curé en prit-elle un si grand chagrin qu'elle en tomba malade dans l'auberge où nous étions. Hélas, ce fut à cause de moi qu'elle s'affligea tant. Elle avait espéré que cette succession la mettrait en état de me faire du bien. Et d'ailleurs, ce voyage inutile l'avait épuisée d'argent. Ce qu'elle en avait apporté diminuait beaucoup. Et son frère, qui n'avait que sa cure, aurait bien de la peine à lui en envoyer encore. Pour comble d'embarras, elle était malade. Quelle pitié! Je l'entendais soupirer. Jamais cette chère fille ne m'aima tant, parce qu'elle me voyait plus à plaindre que jamais. Et moi, je la consolais, je lui faisais 1000 caresses. Elles étaient bien vraies, car j'étais rempli de sentiments. J'avais le cœur plus fin, plus avancé que l'esprit, quoique ce dernier le fût déjà pas mal. Vous jugez bien qu'elle avait informé le curé de toute notre histoire, et comme il y a des temps où les malheurs fondent sur les gens avec furie, car on ne saurait le penser autrement. Cet honnête homme, en allant voir ses confrères, avait fait une chute 6 semaines après notre départ, accident dangereux pour un homme âgé. Il n'avait pu se lever depuis et il ne faisait que languir. et les fâcheuses nouvelles qu'il reçut de sa sœur venant là-dessus, il tomba dans des infirmités qui l'obligèrent de se nommer un successeur, et dont son esprit se ressentit autant que son corps. Il eut cependant le temps de nous envoyer encore quelque argent, après quoi il ne fut plus question de le compter même parmi les vivants. Je frissonne encore en me ressouvenant de ces choses-là. Il faut que la terre soit un séjour bien étranger pour la vertu, car elle ne fait qu'y souffrir. La guérison de la sœur était presque désespérée quand nous apprîmes l'état du frère. À la lecture de la lettre qui nous en informait, elle fit un cri et s'évanouit. De mon côté, tout en pleurs, j'appelai à son secours. Elle revint à elle et ne versa pas une larme. Je ne lui vis plus dès ce moment qu'une résignation courageuse. Son cœur devint plus ferme. Ce ne fut plus cette amitié toujours inquiète qu'elle avait eue pour moi. Ce fut une tendresse vertueuse qui me remit avec confiance entre les mains de celui qui dispose de tout. Quand son évanouissement fut passé et que nous fûmes seuls, elle me dit d'approcher parce qu'elle avait à me parler. Laissez-moi, ma chère amie, vous dire une partie de son discours. Leur souvenir m'en est encore cher, ce sont les dernières paroles que j'ai entendues d'elle. Marianne, me dit-elle, je n'ai plus de frère, quoiqu'il ne soit pas encore mort. C'est comme s'il ne vivait plus, et pour vous et pour moi. Je sens aussi que vous me perdrez bientôt, mais Dieu le veut. Cela me console de l'état où je vous laisse, tout triste qu'il est. Il a ses vues pour vous, qui valent mieux que les miennes. Peut-être languirai-je encore quelque temps, peut-être mourrai-je dans la première faiblesse qui me prendra. Elle ne disait que trop vrai. Je n'oserais vous donner l'argent qui me reste, vous êtes trop jeune, et l'on pourrait vous tromper. Je veux le remettre entre les mains du religieux qui me vient voir. Je le prierai d'en disposer sagement pour vous. Il est notre voisin, il ne vient pas aujourd'hui. Vous irez le chercher demain afin que je lui parle. Après cette unique précaution qui me reste à prendre pour vous, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est d'être toujours sage. Je vous ai élevé dans l'amour de la vertu. Si vous gardez votre éducation, tenez Marianne, vous serez héritière du plus grand trésor qu'on puisse vous laisser, car avec lui ce sera vous, ce sera votre âme qui sera riche. Il est vrai, mon enfant, que cela n'empêchera pas que vous ne soyez pauvre du côté de la fortune et que vous n'ayez encore de la peine à vivre. Peut-être aussi, Dieu récompensera-t-il votre sagesse de ce monde. Les gens vertueux sont rares, mais ceux qui estiment la vertu ne le sont pas, d'autant plus qu'il y a mille occasions dans la vie où l'on a absolument besoin des personnes qui en ont. Par exemple, on ne veut se marier qu'à une honnête fille. Est-elle pauvre ? On n'est point déshonoré en épousant. N'a-t-elle que des richesses sans vertu ? On se déshonore, et les hommes seront toujours dans cet esprit-là. Cela est plus fort qu'eux, ma fille. Ainsi vous trouverez quelque jour votre place, et d'ailleurs, la vérité est si douce, si consolante dans le cœur de ceux qui en ont. Fussent-ils toujours pauvres, leur intelligence, l'indigence dure si peu, la vie est si courte ? Les hommes qui se moquent le plus de ce qu'on appelle sagesse traînent pourtant si cavalièrement une femme qui se laisse séduire. Ils acquièrent ses droits si insolents avec elle. Ils la punissent tant de son désordre. Ils la sentent si dépourvue contre eux, si désarmée, si dégradée, à cause qu'elle a perdu cette vertu dont ils se moquaient. Qu'en vérité, ma fille, ce n'est que faute d'un peu de réflexion qu'on se dérange. Car en y songeant, qui est-ce qui voudrait cesser d'être pauvre à condition d'être infâme ? Quelqu'un de la maison, qui entra alors, l'empêcha d'en dire davantage. Peut-être êtes-vous curieux de savoir ce que je lui réponds ? Rien, car je n'en eus pas la force. Son discours et ses idées de sa mort m'avaient bouleversé l'esprit. Je lui tenais son bras, que je baisais mille fois, voilà tout. Mais je ne perdis rien de tout ce qu'elle me dit, et en vérité, je vous le rapporte presque mot pour mot, tant j'en fus frappé. Aussi avais-je alors 15 ans et demi, pour le moins, avec toute l'indigence qu'il fallait pour entendre cela. Venons-en maintenant à l'usage que j'en ai fait. Que de folie, je vais bientôt vous dire. Faut-il qu'on ne soit sage que quand il n'y a point de mérite à l'être? Que veut-on dire en parlant de quelqu'un quand on dit qu'il est en âge de raison? C'est mal parlé, cet âge de raison, et bien plutôt l'âge de la folie. Quand cette raison nous est venue, nous l'avons comme un bijou d'une grande beauté, que nous regardons souvent, que nous estimons beaucoup, mais que nous ne mettons jamais en œuvre. Souffrez mes petites réflexions, j'en ferai toujours quelqu'une en passant, mes faiblesses, mon bien acquis le droit d'en faire. Poursuivons. J'ai été jusqu'à la charge d'autrui et je vais bientôt être à la mienne. La sœur du curé m'avait dit qu'elle craignait de mourir dans la première faiblesse qui lui prendrait. Et elle prophétisait. Je ne voulus point me coucher cette nuit-là, je la veillais. Elle reposa assez tranquillement jusqu'à 2 heures après minuit. Mais alors je l'entendis se plaindre. Alors je courus à elle, je lui parlais. Elle n'était plus en état de me répondre. Elle ne fit que me serrer la main très légèrement, et elle avait le visage d'une personne expirante. La frayeur alors s'empara de moi, et ce fut une frayeur qui me vint de la certitude de la perdre. Je tombai dans l'égarement. Je n'ai de ma vie rien senti de si terrible. Il me sembla que tout l'univers était un désert où j'allais rester seul. Je connus combien je l'aimais, combien elle m'avait aimé, et tout cela se peignit dans mon cœur d'une manière si vive que cette image-là me désolait. Mon Dieu, combien de douleur peut entrer dans notre âme, jusqu'à quel degré peut-on être sensible? Je vous avouerai que l'épreuve que j'ai faite de cette douleur dont nous sommes capables est une des choses qui m'a le plus épouvanté dans ma vie. Quand j'y ai songé, je lui dois même le goût de retraite, où je suis à présent. Je ne sais point philosopher, je ne m'en soucie guère, car je crois que cela n'apprend rien qu'à discourir. Les gens que j'ai entendus raisonner là-dessus ont bien de l'esprit, assurément, mais je crois que sur certaines matières, ils ressemblent à ces nouvellistes qui font des nouvelles quand ils n'en ont point, ou qui corrigent celles qu'ils reçoivent quand elles ne leur plaisent pas. Je pense, pour moi, qu'il n'y a que le sentiment qui nous puisse donner des nouvelles un peu sûres de nous, et qu'il ne faut pas trop se fier à celles que notre esprit veut faire à sa guise, car je le crois un grand visionnaire. Mais reprenons vite mon récit. Je suis toute honteuse du raisonnement que je viens de faire, et j'étais toute glorieuse en le faisant. Vous verrez que j'y prendrai goût, car dans tout il y a, dit-on, que le premier pas qui coûte. Et pourquoi n'y reviendrai-je pas? Est-ce à cause que je ne suis qu'une femme et que je ne sais rien? Le bon sens est de tout sexe. Je ne veux m'instruire personne. J'ai 50 ans passés. Et un honnête homme très savant me disait l'autre jour que quoique je ne susse rien, je n'étais pas plus ignorante que ceux qui en savaient plus que moi. Oui, c'est un savant du premier ordre qui a parlé comme cela. Car ces hommes, tout fiers qu'ils sont de leur science, ils ont quelquefois des moments où la vérité leur échappe d'abondance de cœur, et où ils sentent, cela de leur présomption, qu'ils la quittent pour respirer en francs ignorants comme ils sont. Cela les soulage, et moi, de mon côté, j'avais besoin de dire un peu ce que je pensais d'eux. Je fus donc frappé d'une douleur mortelle en voyant que cette vertueuse fille, à qui je devais tant, se mourait. Elle avait eu beau me parler de sa mort, je n'avais point imaginé que la maladie la conduisait jusque-là. Mes gémissements firent retentir la maison. Ils réveillèrent tout le monde. L'hôte et l'hôtesse, se doutant de la vérité, se levèrent et vinrent frapper à la porte de notre chambre. Je l'ouvris sans savoir que je l'ouvrais. Ils me parlèrent et je faisais des cris pour toute réponse. Ils furent bientôt instruits de la cause de ma désolation et voulurent secourir cette fille expirante et peut-être déjà expirée, car elle n'avait plus de mouvement. Mais une demi-heure après, on vit qu'elle était morte. Les domestiques arrivèrent. Il se vit un fracas pendant lequel je perdis connaissance et on me porta dans une chambre voisine sans que je le sentisse. De l'état où je fus ensuite, je n'en parlerai point, vous le devinez bien, et moi-même, ce récit-là m'attriste encore. Enfin, me voilà seul et sans autre guide qu'une expérience de 15 ans et demi, plus ou moins. Comme la défunte m'avait fait passer pour sa nièce et que j'avais l'air raisonnable, on me rendit compte de tout ce qu'on disait lui avoir trouvé et qu'il ne valait pas la peine qu'on y fît plus de cérémonie. Quand même, on m'aurait remis tout ce qu'il y avait, mais une partie du linge fut volée avec d'autres bagatelles et de près de 400 livres que je savais qu'il lui restait. On en prit bien la moitié, je pense. Je m'en plaignis, mais si faiblement que je n'insistais point. Dans l'affliction où j'étais, je n'avais plus rien à cœur. Comme je ne voyais plus personne qui prit part à moi ni à ma vie, je n'y en prenais plus moi-même. Et cette manière de penser me mettait dans un état qui ressemblait à de la tranquillité. Mais qu'on est à plaindre avec cette tranquillité-là. On est plus digne de pitié que dans le désespoir le plus emporté. Tout le monde de la maison paraissait s'intéresser beaucoup à moi, surtout l'hôte et sa femme, qui venaient tendrement me consoler d'un malheur dont ils avaient fait leur profit. Et tout est plein de pareils gens dans la vie. En général, personne ne marque tant de zèle pour adoucir vos peines que les fourbes qui les ont causées et qui y gagnent. Je laissai vendre des habits dont on me donna ce qu'on voulut, et il y avait déjà 15 jours que ma chère tante, comme on l'appelait, je dirais volontiers ma chère mère, ou plutôt mon unique amie, car il n'y a point de qualité qui ne le cède à celle-là, ni de cœur plus tendre, plus infaillible, que le cœur inspiré par la véritable amitié. Il y avait donc déjà 15 jours que cette amie était morte, et je les avais passés dans cette auberge sans savoir ce que je deviendrais, ni sans mettre en peine quand ce religieux dont j'ai déjà parlé, qui venait souvent voir la défunte et qui avait été malade aussi, vint encore pour savoir de mes nouvelles, et il apprit la mort de cette femme avec chagrin. Et comme il était le seul qui sut le secret de ma naissance, que la défunte avait trouvé à propos de l'en instruire, et que je savais qu'il en était instruit, je le vis arriver avec plaisir. Il fut extrêmement sensible à mon malheur, et au peu de soucis que j'avais de moi dans ma consternation. Alors il me parla là-dessus d'une manière très touchante, me fit envisager les dangers que je courais en restant dans cette maison seule et sans être réclamé de qui que ce soit au monde. Et effectivement, c'était une situation qui m'exposait d'autant plus que j'étais d'une figure très aimable, et à cet âge où les grâces sont si charmantes, parce qu'elles sont ingénues et toutes fraîches écloses. Son discours fit son effet. J'ouvris les yeux sur mon état et je pris de l'inquiétude de ce que je deviendrais. Cette inquiétude me jeta encore 1000 fantômes dans l'esprit. « Où irai-je » disais-je en fondant en larmes. « Je n'ai personne sur la terre qui me connaisse. Je ne suis la fille ni la parente de qui que ce soit. À qui demanderai-je du secours? Qui est-ce qui est obligé de m'en donner? Que ferai-je en sortant d'ici? L'argent que j'ai ne me durera pas longtemps. On peut me le prendre. Et voilà la première fois que j'en ai, que j'en dépense. Ce bon religieux ne savait que me répondre. Je crus même voir à la fin que je lui étais à charge, parce que je le conjurais de me conduire. Et ces bonnes gens, quand ils vous ont parlé et qu'ils vous ont exhorté, ils ont fait tout pour vous, tout ce qu'ils peuvent faire. De retourner à mon village, c'était une folie, il n'y avait plus d'asile. Je n'y retrouverai qu'un vieillard tombé dans l'imbécilité, qui avait tout vendu pour nous envoyer le dernier argent que nous avions reçu, et qui achevait de mourir sous la tutelle d'un successeur que je ne connaissais pas, à qui j'étais inconnue ou pour le moins indifférente. Il n'y avait donc nul ressort de ce côté-là, et en vérité, la tête m'en tournait de frayeur. Enfin, ce religieux, à force de chercher et d'imaginer, pensa à un homme de considération, charitable et pieux, qui était, disait-il, dévoué aux bonnes œuvres et à qui il promit de me recommander dès le lendemain. Mais je n'entendais plus raison. Il n'y avait point de lendemain à me promettre, je ne pouvais supporter d'attendre jusque-là. Je pleurais, je me désolais. Il voulait sortir, je le retenais, je me jetais à ses genoux. Non point de lendemain, lui disais-je, tirez-moi d'ici tout à l'heure, ou bien vous allez me jeter au désespoir. Que voulez-vous que je fasse ici? On m'y a déjà pris une partie de ce que j'avais. Peut-être cette nuit prendra-t-on le reste. On peut m'enlever. Je crains pour ma vie, je crains pour tout, et assurément je n'y resterai point. Je mourrai plutôt, je fuirai, et vous en serez fâché. Ce religieux, alors, qui était dans un embarras cruel et qui ne pouvait se débarrasser de moi, s'arrêta, se mit à rêver un moment, ensuite prit une plume et du papier et écrivit un billet à la personne dont il m'avait parlé. Il me le lut. Le billet était pressant. Il la conjurait, par toute sa religion, de venir où nous étions. « Dieu vous y réserve, lui disait-il, à l'action de la charité la plus précieuse à ses yeux et la plus méritoire que vous ayez jamais faite. » Et pour l'exciter encore davantage, il lui marquait mon sexe, mon âge et ma figure, et tout ce qui va être en arrivé, ou par ma faiblesse, ou par la corruption des autres. Le billet écrit, je le fis porter à son adresse, et en attendant la réponse, je gardais ce religieux à vue, car j'avais résolu de ne point coucher cette nuit-là dans la maison. Je ne saurais pourtant vous dire précisément quel était l'objet de ma peur, et voilà pourquoi elle était si vive. Tout ce que je sais, c'est que je me représentais la physionomie de mon hôte, que je n'avais jamais trop remarqué jusque-là, et dans cette physionomie alors, j'y trouvais des choses terribles. Celle de sa femme me paraissait sombre, ténébreuse. Les domestiques avaient la mine de ne valoir rien. Enfin, tous ces visages-là me faisaient frémir, et je n'y pouvais tenir. Je voyais des épées, des poignards, des assassinats, des vols, des insultes. Mon sang se glaçait au péril que je me figurais, car quand une fois l'imagination est en train, malheur à l'esprit qu'elle gouverne. J'entretenais le religieux de mes idées noires, quand celui qui avait fait notre message nous vint dire que le carrosse de l'honnête homme en question nous attendait en bas et qu'il n'avait pu ni écrire ni venir lui-même parce qu'il était en affaire quand il avait reçu le billet. Sur le champ, je fis mon paquet. On aurait dit qu'on me rachetait la vie. Je fis appeler cet hôte et cette hôtesse si effrayants. Et il est vrai qu'ils n'avaient pas trop bonne mine et que l'imagination n'avait pas grand ouvrage à faire pour les rendre désagréables. Ce qui est de sûr, c'est que j'ai toujours retenu leurs visages. Oh, je les vois encore, je les peindrai. Et dans le cours de ma vie, j'ai connu quelques honnêtes gens que je ne pouvais souffrir à cause que leur physionomie avait quelques airs de ces visages-là. Je montai donc dans le carrosse avec ce religieux, et nous arrivons chez la personne en question. C'était un homme de 50 à 60 ans, encore assez bien fait, fort riche, d'un visage doux et sérieux, où l'on voyait un air de mortification qui empêchait qu'on le remarquât sur l'embonpoint. Il nous reçut bonnement et sans façon, et sans autre compliment que d'embrasser d'abord le religieux, et il jeta un coup d'œil sur moi, et puis nous fit asseoir. Le cœur me battait, j'étais honteuse, embarrassée, je n'osais lever les yeux, mon petit amour-propre était étonné, et ne savait où il en était. « Voyons, de quoi s'agit-il ? » dit alors notre homme, pour entamer la conversation, et en prenant la main du religieux, qu'il serra avec componction dans la sienne. Là-dessus, le religieux lui conta mon histoire. « Voilà, répondit-il, une aventure bien particulière et une situation bien triste. Vous pensiez juste, mon père, quand vous m'avez écrit, qu'on ne pouvait faire une meilleure action que de rendre service à mademoiselle. Je le crois de même, elle a plus besoin de secours qu'un autre par mille raisons, et je vous suis obligé de vous être adressé à moi pour cela. Je bénis le moment, vous avez été inspiré de m'avertir, car je suis pénétré de ce que je viens d'entendre. Alors, examinons un peu de quelle façon nous nous y prendrons. Quel âge avez-vous, ma chère enfant ? Ajouta-t-il en me parlant avec une charité cordiale. À cette question, je me mis à soupirer sans pouvoir répondre. « Oh, ne vous affligez pas, me dit-il. Prenez courage. Je ne demande qu'à vous être utile, et d'ailleurs, Dieu est le maître. Il faut le louer de tout ce qu'il fait. Dites-moi donc, quel âge avez-vous, à peu près ?»« 15 ans et demi, repris-je, peut-être plus. » « Effectivement, dit-il en se retournant du côté du père, à la voir, on lui en donnerait davantage, mais sur sa physionomie, j'augure bien de son cœur et du caractère de son esprit. On est même porté à croire qu'elle a de la naissance. En vérité, son malheur est bien grand. Que les desseins de Dieu sont impénétrables. Mais revenons au plus pressé, ajouta-t-il après s'être ainsi prosterné en esprit devant les desseins de Dieu. Comment, vous, comme vous n'avez nulle fortune dans ce monde, il faut voir à quoi vous vous destinez. La demoiselle qui est morte n'avait-elle rien résolu pour vous ? Elle avait, lui dis-je, intention de me mettre chez une marchande. Fort bien, reprit-il. J'approuve ces vues, sont-elles de votre goût ? Parlez franchement. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous convenir. J'ai, par exemple, une belle sœur qui est une personne très raisonnable, forte à son aise, et qui vient de perdre une demoiselle qui était à son service, qu'elle aimait beaucoup, et à qui elle aurait fait de bien dans la suite si vous vouliez tenir sa place. Je suis persuadé qu'elle vous prendrait avec plaisir. Cette proposition me fit rougir. Hélas, monsieur, lui dis-je, quoique je n'ai rien et que je ne sache à qui je suis, il me semble que j'aimerais mieux mourir que d'être chez quelqu'un en qualité de domestique. Et si j'avais mon père et ma mère, il y a toute apparence que j'en aurais moi-même au lieu d'en servir à personne. Je lui répondis cela d'une manière fort triste. Après quoi, versant quelques larmes, « Puisque je suis obligé de travailler pour vivre, ajoutai-je en sanglotant, « je préfère le plus petit métier qu'il y ait, le plus pénible, pourvu que je sois libre, à présent dont vous me parlez, quand j'y devrais faire ma fortune. »« Eh, mon enfant, me dit-il, tranquillisez-vous. Je vous loue de penser comme cela. C'est une marque que vous avez du cœur, et cette fierté-là est permise. Il ne faut pas la pousser trop loin, elle ne serait plus raisonnable. » Quelque conjecture avantageuse qu'on puisse faire de votre naissance, cela ne vous donne aucun état, et vous devez vous régler là-dessus. Mais enfin, nous suivrons les vues de cet ami que vous avez perdu. Il en coûtera davantage. C'est une pension qu'il faudra payer. Mais n'importe, dès aujourd'hui vous serez placé. Je vais vous mener chez ma marchande de linge et vous y serez la bienvenue. Êtes-vous contente ? Oui, monsieur, lui dis-je, jamais je n'oublierai vos bontés. Profitez-en, mademoiselle, dit alors le religieux qui nous avait jusque-là laissé faire tout notre dialogue, et comportez-vous d'une manière qui récompense monsieur des soins où sa piété l'engage pour vous. Oh, je crains bien, reprit alors notre homme d'un ton dévot et scrupuleux, je crains bien de n'avoir point de mérite à la secourir, car je suis trop sensible à son infortune. Alors il se leva et dit: Oh, ne perdons point de temps, il se fait tard, allons chez la marchande dont je vous ai parlé, mademoiselle, pour vous. Mon père, vous pouvez à présent vous retirer. Je vous rendrai bon compte du dépôt que vous me confiez. Là-dessus, le religieux nous quitta. Je le remerciai de ses peines en bégayant, car j'étais tout troublé, et nous voilà en chemin dans le carrosse de mon bienfaiteur. Je voudrais bien pouvoir vous dire tout ce qui se passait dans mon esprit et comment je sortis de cette conversation que je venais d'essuyer et dont je ne vous ai dit que la moindre partie, car il y eut bien d'autres discours très mortifiants pour moi. Et il est bon de vous dire que, toute jeune que j'étais, j'avais l'âme un peu fière. On m'avait élevé avec douceur et même avec des égards. J'étais bien étourdi dans l'entretien de cette espèce. Les bienfaits des hommes sont accompagnés d'une maladresse si humiliante pour les personnes qui les reçoivent. Imaginez-vous qu'on avait épluché ma misère pendant 1 heure, qu'il n'avait été question que de la compassion que j'inspirais, du grand mérite qu'il y aurait à me faire du bien. Et puis, c'était la religion qui voulait qu'on prît soin de moi ensuite. Venait en face de réflexions charitables, une enflure de sentiments dévots. Jamais la charité n'étala ses tristes devoirs avec tant d'appareil. J'avais le cœur noyé dans la honte. Et puisque j'y suis, je vous dirai que c'est quelque chose de bien cruel que d'être abandonné au secours de certaines gens, car qu'est-ce qu'une charité qui n'a point de pudeur avec le misérable, et qui, avant que de le soulager, commence par écraser son amour-propre. La belle chose qu'une vertu qui fait le désespoir de celui sur qui elle tombe. Est-ce qu'on est charitable à cause qu'on fait des œuvres de charité? Il s'en faut bien. Quand vous venez vous appesantir sur le détail de mes mots, dirai-je à ces gens-là, quand vous venez me confronter avec toute ma misère, et que le cérémonial de vos questions, ou plutôt de l'interrogatoire dont vous m'accablez, marche devant les secours que vous me donnez, voilà ce que vous appelez faire une œuvre de charité. Et moi je dis que c'est une œuvre brutale et haïssable, œuvre de métier et non de sentiment. J'ai fini. Oh, que ceux qui ont besoin de leçons là-dessus profitent de celles que je leur donne. Elle vient de bonne part, car je leur parle d'après mon expérience. Je me suis laissé dans le carrosse avec mon homme pour aller chez la marchande. Je me souviens qu'il me questionnait beaucoup dans le chemin et que je lui répondais d'un ton bas et douloureux. Je n'osais me remuer, je ne tenais presque point de place et j'avais le cœur mort. Cependant, malgré l'anéantissement où je me sentais, j'étais étonné des choses dont il m'entretenait. Je trouvais sa conversation singulière. Il me semblait que mon homme se mitigeait, qu'il était plus flatteur que zélé, plus généreux que charitable. Il me paraissait tout changé. Je vous trouve bien gêné avec moi, me disait-il. Oh, je ne veux point vous voir dans cette contrainte-là, ma chère fille. Vous m'haïriez bientôt, quoique je ne vous veuille que du bien. Notre conversation avec ce religieux vous a rendu triste. Le zèle de ces gens-là n'est pas consolant. Il est dur et il faut faire comme eux. Mais moi, j'ai naturellement le cœur bon. Ainsi, vous pouvez me regarder comme votre ami, comme un homme qui s'intéresse à vous de tout son cœur et qui veut avoir votre confiance. Entendez-vous? Je me retiens le privilège de vous donner quelques conseils, mais je ne prétends pas qu'ils vous effarouchent. Je vous dirai, par exemple, que vous êtes jeune et jolie, et que ces deux belles qualités vont vous exposer aux poursuites du premier étourdi qui vous verra. et que vous feriez mal de l'écouter, parce que cela ne vous mènerait à rien et ne mérite pas votre attention. C'est à votre fortune à qui il faut que vous la donniez et à tout ce qui pourra l'avancer. Oh, je sais bien qu'à votre âge, on est charmé de plaire, et vous plairez même sans y tâcher, j'en suis sûr. Mais du moins ne vous souciez point trop de plaire à tout le monde, surtout à 1000 petits soupirants que vous ne devez pas regarder dans la situation où vous êtes. Oh, ce que je vous dis là n'est point d'une sévérité outrée, continua-t-il d'un air aisé en me prenant la main, que j'avais belle. Non, monsieur, lui dis-je. Et puis, voyant que j'étais sans gants, oh, je vais vous en acheter, me dit-il, cela conserve les mains, et quand on les a belles, il faut y prendre garde. Là-dessus, il fait arrêter le carrosse, et m'en prit plusieurs paires que j'essayais toutes avec le secours qu'il me prêtait, car il voulait m'aider, et moi, je le laissais faire en rougissant de mon obéissance. Et je rougissais sans savoir pourquoi, seulement par un instinct qui me mettait en peine de ce que cela pouvait signifier. Toutes ces petites particularités, au reste, je vous les dis, parce qu'elles ne sont pas si bagatelles qu'elles le paraissent. Nous arrivâmes chez la marchande, qui me paraît une femme assez bien faite, et qui me reçut aux conditions dont il convint pour ma pension. Il me semble qu'il lui parla longtemps à part, mais je n'imaginais rien là-dessus. Mais il s'en alla en disant qu'il nous reviendrait voir dans quelques jours, et en me recommandant extrêmement à la marchande, qui, après qu'il fut parti, me fit voir une petite chambre où je mis mes hardes et où je devais coucher avec une compagne. Cette marchande, il faut que je vous la nomme pour la facilité de l'histoire. Elle s'appelait Madame Dutour. C'était une veuve qui, je pense, n'avait pas plus de 30 ans. Une grosse, réjouie, qui, à vue d'œil, paraissait la meilleure femme du monde. Aussi l'était-elle. Son domestique était composé d'un petit garçon de 6 ou 7 ans, qui était son fils, d'une servante et d'une nommée Mademoiselle Toinon, sa fille de boutique. Quand je serais tombé des nues, je n'aurais pas été plus étourdi que je l'étais. Les personnes qui ont du sentiment sont bien plus abattues que d'autres dans de certaines occasions, parce que tout ce qui leur arrive les pénètre. Il y a une tristesse stupide qui les prend et qui me prie. Madame Dutour fit de son mieux pour me tirer de cet état-là. « Allons, mademoiselle Marianne, me disait-elle, car elle avait demandé mon nom. Vous êtes avec de bonnes gens, ne vous chagrinez point. J'aime qu'on soit gai. Mais qu'avez-vous qui vous fâche? Est-ce que vous vous déplaisez ici? Moi, dès que je vous ai vu, j'ai pris de l'amitié pour vous. Allez, tenez, voilà toi, non, qui es une bonne enfant. Faites connaissance ensemble. » Mais c'était en soupirant qu'elle me tenait ce discours, à quoi je ne répondais que par une inclination de tête et avec une physionomie dont la douceur remerciait sans que je parlasse. Quelquefois, je m'encourageais jusqu'à dire « Vous avez bien de la bonté !» Mais en vérité, j'étais déplacé, j'étais pas faite pour être là. Je sentais, dans la franchise de cette femme-là, quelque chose de grossier qui me rebutait. Je n'avais pourtant encore vécu qu'avec mon curé et sa sœur, et ce n'étaient pas des gens du monde, il s'en fallait bien, mais je ne leur avais vu que des manières simples et non pas grossières. Leurs discours étaient unis et sensés. D'honnêtes gens, vivant médiocrement, pouvaient parler comme ils parlaient, et je n'aurais rien imaginé de mieux si je n'avais vu autre chose. Au lieu qu'à ces gens-ci, oh, je n'étais pas contente. Je retrouvais un jargon, un ton brusque qui blessait ma délicatesse. Je me disais déjà que dans le monde, il fallait qu'il y eût quelque chose qui valait mieux que cela. Je soupirais après, j'étais triste d'être privé de ce mieux que je ne connaissais pas. Dites-moi d'où cela venait. Où est-ce que j'avais pris mes délicatesses? Était-elle dans mon sang? Cela se pourrait bien. Venait-elle du séjour que j'avais fait à Paris? Cela se pourrait encore. Il y a des âmes perçantes à qui il n'en faut pas beaucoup montrer pour les instruire, et qui, sur le peu qu'elles voient, soupçonnent tout d'un coup tout ce qu'elles pourraient voir. La mienne avait le sentiment bien subtil, je vous assure, surtout dans les choses de sa vocation, comme était le monde. Je ne connaissais personne à Paris. Je n'en avais vu que les rues, mais dans ces rues, il y avait des personnes de toutes espèces. Il y avait des carrosses, et dans ces carrosses, un monde qui m'était très nouveau, mais point étranger. Et sans doute, il y avait en moi un goût naturel, qui n'attendait que ces objets-là pour s'y prendre, de sorte que, quand je les voyais, c'était comme si j'avais rencontré ce que je cherchais. Vous jugez bien qu'avec ces dispositions, Madame Dutour ne me convenait point, non plus que Mademoiselle Toinon, qui était une grande fille, qui se redressait toujours, et qui maniait sa toile avec tout le jugement et toute la décence possible. Oh, elle y était tout entière, et son esprit ne paraissait pas son aune. Mais pour moi, j'étais si gauche à ce métier-là, que je l'impatientais à tout moment. Oh, il fallait voir de quel air me reprenait, avec quelle fierté de savoir. Elle corrigeait ma maladresse. Et ce qui est plaisant, c'est que l'effet ordinaire de ces corrections, c'était de me rendre encore plus maladroite, parce que j'en devenais plus dégoûté. Nous couchions dans la même chambre, comme je vous l'ai déjà dit. Elle me donnait des leçons pour parvenir, disait-elle. Ensuite, elle me contait l'état de ses parents, leurs facultés, leur caractère, ce qu'il lui avait donné pour ses dernières étrennes. Après venait un amant qu'elle avait, qui était un beau garçon, fait autour, et puis nous irions nous promener ensemble. Et moi, sans avoir d'envie, je lui répondais que je le voulais bien. Les inclinations de Madame Dutour n'étaient pas oubliées. Son amant l'aurait déjà épousée, mais il n'était pas assez riche, et en attendant, il la voyait toujours, venait souvent manger chez elle, et lui faisait un peu trop bonne chère. C'est pour vous divertir que je vous conte cela. Passez-le si ça vous ennuie. Monsieur de Climal, c'était ainsi qu'elle appelait celui qui m'avait mis chez Madame Dutour, revint 3 ou 4 jours après m'avoir laissé là. J'étais alors dans notre chambre avec Mademoiselle Toinon, qui me montrait ses belles hardes et qui sortit, par savoir-vivre, dès qu'il fut entré. « Eh bien, mademoiselle, comment vous trouvez-vous ici ?» me dit-il. « Mais, monsieur, répondis-je, j'espère que je m'y ferai. »« J'aurai, répondit-il, grande envie que vous fussiez contente. » Car je vous aime de tout mon cœur. Vous m'avez plu tout d'un coup et je vous en donnerai toutes les preuves que je pourrai. Pauvre enfant, que j'aurai du plaisir à vous rendre service. Mais je veux que vous ayez de l'amitié pour moi. Il faudrait que je fusse bien ingrate pour en manquer, lui répondis-je. Non, 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 reprit-il. Ce ne sera point par ingratitude que vous ne m'aimerez point. C'est que vous n'aurez pas avec moi une certaine liberté que je veux que vous ayez. Je sais trop le respect que je vous dois, lui dis-je. Oh, il n'est pas sûr que vous m'en deviez, dit-il, puisque nous ne savons pas qui vous êtes. Mais Marianne, ajouta-t-il en me prenant la main, qu'il serrait imperceptiblement, ne seriez-vous pas un peu plus familière avec un ami qui vous voudrait autant de bien que je vous en veux? Voilà ce que je demande. Vous lui diriez vos sentiments, vos goûts. Vous aimeriez à le voir. Bien, pourquoi ne feriez-vous pas de même avec moi? Oh, que j'y veux mettre ordre absolument, nous aurons querelle ensemble. À propos, oh, j'oubliais à vous donner de l'argent. Et en disant cela, il me mit quelques louis d'or dans la main. Je les refusai d'abord et lui dis qu'il me restait quelque argent de la défunte, mais malgré cela, il me força de les prendre. Je les pris donc avec honte, car cela m'humiliait, Mais je n'avais pas de fierté à écouter là-dessus avec un homme qui s'était chargé de moi, pauvre orpheline, et qui paraissait vouloir me tenir lieu de père. Je fis une révérence assez sérieuse en recevant ce qu'il me donnait. Et, me dit-il, ma chère Marianne, laissons-là les révérences et montrez-moi que vous êtes contente. Combien m'allez-vous saluer de fois pour un habit que je vais vous acheter, voyons? Je ne le fis pas, ce me semble une grande attention à l'habit qu'il me promettait, mais il dit cela d'un air si bon et si badin, qui me gagna le cœur, je vous l'avoue. Mes répugnances me quittèrent, un vif sentiment de reconnaissance en prit la place, et je me jetai sur son bras, que j'embrassai de fort bonne grâce et presque en pleurant de sensibilité.